easy to put that up. So I'll pick up from the bottom foot.
Bon, légèrement plus haut.
Flic attaque.
Flic matraque. Les petits fumeurs de joint sur les grands bancs de bois. Un œil à gauche, un œil à droite. Allez, vas-y, coco, à toi. La fumée monte en ligne droite. Mais là-bas, au bout de l'allée, apparaît l'eau qui peut redouter. Le joint expire sous le talon. L'ultime bouffée sort du poumon.
Sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. C'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et je suis en compagnie de Sylvie. Bonjour Sylvie.
Bonjour tout le monde.
Et nous allons une fois de plus parler de lire et commenter Les Brutes en Blanc de Martin Winkler, dont je rappelle que Martin Winkler a exercé la médecine générale en France de 1983 à 2008, en zone rurale et à l'hôpital. Il vit désormais au Canada, où il participe à la formation des futurs médecins là-bas, à l'université McGill et à l'université d'Ottawa. Soigner, c'est aider l'autre à s'affranchir de la souffrance, de la peur et, si possible, de la maladie. Aider soignant, ce n'est pas une relation de pouvoir. Voilà, donc c'est un livre qui alerte sur la maltraitance médicale. Et nous lisions ces dernières semaines la partie du livre, la fin, consacrée à la formation des futurs médecins, justement. Donc nous allons poursuivre, mais auparavant... Une ou deux, ou même trois annonces.
Ok. Tu commences peut-être par les deux autres. On terminera par celle qui concerne le groupe Libertaire d'Ivry, dont je fais partie.
Allez, on fait comme dans cet ordre-là. Alors, pour commencer, il y a une projection dimanche 22 mars. 2026 à 14h à la Parole Errante à Montreuil, dans le cadre du grand week-end de soutien au cinéma voyageur et à Synapse, la projection du film J'ai marché jusqu'ici, collectif chantier cinématographique, J'ai marché jusqu'ici est issu d'une réalisation collective mise en chantier par Elisa Lebriand et Johanna Uruzola, association Tard la Nuit, en collaboration avec le laboratoire cinématographique partagé L'Abominable. Cet atelier itinérant s'est déroulé pendant 4 ans avec des adhérents et adhérentes et participantes, des animateurs et animatrices, des groupes d'entraide mutuelle de Saint-Denis, Montreuil et Épinay-sur-Seine, du service d'accompagnement à la vie sociale de Stein et de la Tram à Saint-Denis. Commencé en 2020, le film s'est construit un pied après l'autre, d'ateliers en séjour, ici et ailleurs, il dessine, chemin faisant, un territoire et les contours d'une fabrication commune. Donc, j'ai marché jusqu'ici, dimanche 22 mars, 14h, à la Parole Errante, à Montreuil, 9 rue François de Bergue, métro Croix de Chavaux, ligne 9. Deuxième annonce, regard croisé sur la paire et danse, première rencontre biennale des états généreux de la paire et danse, EGPA.
C'était les invités de la semaine dernière.
Oui. Le samedi 28 mars 2026 à l'Aéry, 57 rue Étienne Marcel, 9300 Montreuil. Alors c'est au métro Croix de Chavaux, sortie Place du Marché, pour préciser. Accès PMR.
Ça veut dire quoi?
Ben pour les fauteuils roulants.
Ah d'accord.
Donc il y aura table ronde, atelier de discussion, théâtre forum, performance discussion. On pourra manger, et voilà. Alors,
je compte y aller, hein, parce que j'ai des questions à poser. Je suis pas vraiment, enfin, totalement convaincue par la démarche, mais j'y vais pas pour foutre la d'avoir, hein, c'est pour poser des questions, on va dire, voilà.
Alors, il y aura une table ronde paire et danse et émancipation. Camille Henri-Niard, entendeuse de voix, médiatrice de santé, père en équipe mobile et ingénieur hospitalier au CH Le Vinatier, coordinatrice nationale d'Eden Projet, écoute et dialogue avec les entendeurs de voix.
Excuse-moi, les entendeurs de voix, en revanche, c'est pas de la paire et danse. Je croyais qu'ils n'avaient pas de coach, justement, que d'aucune sorte, enfin, que c'était quelque chose de vraiment horizontal, où il n'y avait que des entendeurs de voix, sans personne dans le tas qui a un statut particulier, je me trompe?
Bah, c'est-à-dire que, disons que comme ils font ils se réfèrent à des théories scientifiques quand même, le fait de trouver une explication à ces ententes de voix qui est un peu, comment dire, qui est plutôt d'origine un peu aussi neurologique, quoi. Et du coup, ils ont affaire aussi à des psychiatres. Enfin, ils sont en relation avec des psychiatres.
D'accord. Ben, je suis très déçue. Enfin, je veux dire, je ne savais pas. Moi, dans ma candeur naïve, je croyais que c'était quelque chose qui était vraiment de l'ordre de l'autogestion, à savoir qu'il n'y en a pas un qui est au-dessus des autres, quoi.
Voilà, des psychiatres qu'on pourrait considérer comme antipsychiatres. Les mouvements d'antipsychiatrie ont souvent été menés par des psychiatres, il faut bien dire, dans les années 70.
Oui. C'est bien, mais enfin.
Du coup, c'est toujours un peu la même chose. On avait diffusé sur l'entonnoir des interviews de certaines de ces personnes-là qui avaient donc un point de vue critique de la psychiatrie traditionnelle et qui exposaient leur. Qui partageaient en fait le fruit des expériences qu'ils avaient. Qu'ils avaient faites.
Mais tu me connais, je suis un petit peu trop radicale, hein, de genre, c'est ça, plus radical que moi, tu meurs. Oui, c'est un peu ça. c'est-à-dire que, si tu veux, je ne perds pas l'espoir d'une véritable autogestion et égalité. Et donc, mon problème, c'est pas seulement un pouvoir bien un peu moins. enfin, de l'autorité un peu moins autoritaire, c'est ou vertueuse, c'est pas d'autorité du tout. Je oui. perds pas cet espoir de quelque chose qui soit vraiment égalitaire. Quoi.
Oui, alors.
Donc, bon, je suis un peu perplexe, mais je veux bien écouter, hein, mais je suis pas. Moi, ça me suffit pas qu'on me dise, ouais, mais je suis critique de ceux qui sont pires que moi, si tu préfères. Voilà, pour résumer mon avis.
Eh ben, on aura l'occasion de rediscuter, je pense, avec plaisir. Parce que je poursuis mon annonce.
Oui. Continue, excuse-moi.
Non, c'est pas grave. Alors, Roxane Mazalon, fondatrice d'AdopteUnPère.com, dispositif en père aidance indépendante, s'articulant autour de la formation, du consulting et de l'accompagnement en père aidance. Emmanuel Urbu, père aidant, partenaire au DAC Loire-Atlantique, auteur de Consultations et s'apprivoiser, ouvrage plongé dans son processus de rétablissement de ses troubles bipolaires et de son addiction à l'alcool. Sébastien Heim, auteur de Pulsations de vie et fondateur de l'association à fleurs de lien, dédiée au partage et au lien humain qui prend sens. De l'addiction au féminin, parlons-en, avec Sylvie Coulombé. Savoir expérientiel avec Pierre Vandenberg, et Céline Masson, respectivement médiateur santé père EPS Villévrard et médiatrice de santé père pôle de psychiatrie Jonzac. Théâtre Forum, qu'est-ce que tu as dans ton cartable, animé par les Ouf du 67.
C'est performance. Quoi, ça ?
Alors, Théâtre Forum, c'est quand on.
C'est contre l'école ?
Alors là, c'est par rapport au fait qu'on nous dit souvent « Vous avez un vécu, mais pas de compétences. » Nous, on répond « Si, justement, nos compétences viennent de là, de nos parcours cabossés, de nos rendez-vous médicaux à rallonge, de nos formulaires incompréhensibles, de nos tentatives de rétablissement, de nos stratégies de survie et de nos résistances quotidiennes. » Ici, pas de héros parfaits, ni de solutions miracles. Avec le Théâtre Forum, nous cherchons ensemble ce qui marche un peu mieux que la veille.
Voilà. Mais si j'avais bien suivi, même dans l'émission, pour être père aidant, ça demande pas seulement un vécu, il faut faire des études et même sortir avec un diplôme, ou j'ai mal compris ?
Il y a une. Au moins un diplôme universitaire, oui. Oui. Bon. Donc il faut passer par un. Ouais.
Voilà.
Ensuite, il y aura une performance de Natacha Guillet, suivie d'une discussion avec le public. Pendant tout ce temps, se réalisera une fresque collective, initiée par Géraldine Frottin. Et voilà. Et donc, pas mal de gens, pas mal de choses. Et ce sera donc à l'ARI, à Montreuil, samedi 28 mars, 57 rue Étienne Marcel, Montreuil, de 9h30 à 21h30, donc toute la journée. Et enfin, la troisième annonce, c'est ça se passe à Publico, dimanche 29 mars à 16h. Projection, discussion.
Accueil des 15h.
À l'invitation du groupe Libertaire d'Ivry. Un monde sans travail est-il possible ? Alors, projection du film Bon pied, bon oeil et toute sa tête. Un film de 1h20, réalisé en 1978 par Gérard Leblanc et le groupe Cinétique, avec le comité de lutte des handicapés et le groupe Information Asile. Ce film analyse les handicaps dans l'histoire de leur représentation et de leur contexte social et politique, et documente la lutte des handicapés méchants, des psychiatrisés en lutte et autres trublions des années 70. Les handicaps sont souvent présentés comme étant dus au hasard ou à la fatalité. Ce film démontre au contraire les véritables causes de nombreux handicaps. Même s'ils ne sont pas directement liés aux accidents du travail, les handicaps dits de naissance ne sont souvent ni le fruit du hasard ni le fruit du destin. Ils sont le résultat des conditions de vie imposées aux femmes. Être enceinte ne nous dispense pas de travailler debout, de tenir les cadences et de subir les mêmes conditions de transport que les autres. Les principales causes de naissance avant terme sont liées à l'intensité et à la durée du travail. Les handicapés méchants ne luttaient pas pour l'insertion et surtout pas par le travail. Nous ne voulons pas être intégrés, mais détruire cette société qui nous détruit pour en construire une autre où nous n'aurons pas de difficulté à nous adapter car ce sera la nôtre. Bon pied, bon œil et toute sa tête n'est pas seulement une critique du validisme, mais plus largement de sa logique capitaliste et de la valeur travail. Orientés dès l'enfance en fonction de notre utilité potentielle, nous sommes ensuite exploités jusqu'à l'usure ou l'accident. Mutilés, handicapés, physiques et mentaux, ou inadaptés sociaux, entre guillemets, les réfractaires au travail sont rééduqués, soignés, protégés pour continuer à remplir le seul rôle auquel nous destine la société capitaliste, des machines à produire. Quel mode de production envisageons-nous en société libertaire ? Une activité librement choisie pourrait-elle encore être désignée par le même mot qu'aujourd'hui ? C'est donc dimanche 29 mars 2026, à partir de 16h, accueil de 15h, entrée libre, la projection du film Handicapé méchant est suivie d'une discussion. Un monde sans travail est-il possible ? Ah oui, Handicapé méchant, bon pied, bon œil et toute sa tête.
C'est toi qui nous avais fait découvrir ce film, Denis. Et on a déjà projeté ce film. En fait, c'est toi qui animais le débat et qui présentait du coup l'émission L'Entonnoir, il y a déjà quelques années. Mais pourquoi est-ce que tu avais... C'est toi qui nous a fait découvrir et ça nous avait... Enfin, c'est rare déjà hein, de cocher vraiment toutes les cases par rapport à un discours qui est tenu. Et là, c'était enfin pour quelqu'un qui est un peu radical comme moi. Et là, vraiment, on était très enthousiastes. Et en plus, dans la salle, il y avait des gens qui étaient eux-mêmes dans le domaine de l'aide justement aux handicapés et qui étaient très surpris. Parce que disait c'est la enfin je pensais pas pouvoir être étonné par un discours, mais rien que le discours par rapport au handicap qui n'aurait pas comme seule raison la malchance quoi était quelque chose qui les avait vraiment surpris. Et le simple concept de handicapé méchant, c'est-à-dire que qui refuse tout le discours larmoyant, caritatif, etc., était quelque chose qui les avait vraiment surpris et interrogés. C'est pour ça que tu avais choisi ce film.
Bah, c'était l'histoire que cette histoire-là, oui. On n'est plus dans le domaine de la charité et de la philanthropie, mais par rapport à cette déjà ce concept de handicapé que même des personnes concernées trouvent parfois insultant ce terme-là, il y avait un autre point de vue j'aimais bien d'ailleurs l'effervescence de ces années-là par rapport à la critique sociale, à la critique du capitalisme, etc. Et en effet, j'ai trouvé ce film plein de c'est riche en arguments et
du point de vue formel, il y a des gens qui ont été un peu désarçonnés. C'est très typique de ces années-là aussi, de faire un peu quelque chose d'expérimental. C'est une forme qui peut être un peu surprenante.
Oui. J'aime bien aussi ce côté comme ça, un peu décousu, un peu.
Oui, oui, voilà. Un petit peu foutraque finalement. Oui. J'aime bien moi aussi. qu'est-ce qu'on fait ? On passe une petite musique peut-être avant de passer à. Au livre de Martin Winkler ?
Oui, d'accord. On va passer à Courge.
Alors, pour la vraie,
C'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie sur Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu et sans maître. Et c'est toujours la lecture des Brutes en blanc de Martin Winkler.
Donc là, on en est au chapitre, enfin, je ne sais pas combien d'émissions on a déjà fait sur ce bouquin. Et je précise une fois de plus que, en fait, on découvre le bouquin en même temps que vous, quoi. C'est-à-dire que là, moi, tu m'as dit le sujet général, mais j'ai pas lu une ligne de ce que tu vas lire, et toi non plus, en fait.
Exactement.
Voilà.
Alors, on en était à... Ah, c'est... Ah oui, non, il faut que je m'approche un peu du micro. Ouais, c'est
mieux comme ça. Non, sinon, tu le rapproches de toi aussi. Ah non, c'est vrai, faut mettre la place du bouquin. C'est bête. Tout un truc.
Donc, oui, on en est à ce chapitre où il est question de la formation des jeunes apprentis médecins. Et je lis juste cette phrase du chapitre 5. Qui introduit bien la question. Comme le résumait une étudiante lors d'une rencontre publique à laquelle je participais, écrit Martin Winkler, il y a une dizaine d'années, le patron d'un service impose ses décisions à ses agrégés. Les agrégés imposent leurs diktats aux chefs de clinique. Les chefs de clinique transmettent les leurs aux internes et aux infirmières, les internes aux étudiants. Et les étudiants, sur qui apprennent-ils à exercer l'autorité et les menaces que leurs aînés exercent sur eux ? Sur les patients. Donc, du coup, il y a devenir médecin, critiquer plus loin, consiste avant tout à devenir un docteur, quelqu'un qui sait, qui diagnostique et qui traite comme ses maîtres. Il ne s'agit pas du tout de montrer qu'on sait soulager des souffrances, mais qu'on sait bien reproduire ce qu'on a appris afin d'être digne de devenir docteur à son tour. Apprentissage des nuances, acquisition d'un savoir-faire soignant et prise en compte du patient ne font pas partie du programme. L'endoctrinement médical est par son élitisme tout à fait comparable à celui que subissent les élèves des grandes écoles militaires ou d'administration. Humiliation à la clé. Il n'y a en effet que deux options. Si t'es pas un cador, ça veut dire que t'es nul. L'endoctrinement se nourrit de violence morale. Toute proportion gardée, beaucoup d'enseignants se comportent comme des pères fouettards et leurs étudiants, tels des enfants battus, n'ont de cesse de satisfaire leurs attentes, car l'enjeu est grand. Déplaire au patron, quel que soit l'échelon sur lequel on a le pied, c'est courir le risque au minimum de ne pas recevoir son enseignement, au maximum d'être exclu de ses faveurs, de son service, voire de la profession. En plus d'être le signe d'une inexcusable médiocrité, ne pas être un cador est aussi une transgression proprement criminelle, puisque, rappelons-le, tes patients mourront. Voilà, on en était arrivé à cette phrase, là... la dernière fois.
Ben, encore une fois, je l'avais déjà un peu exprimé, puisqu'il avait déjà évoqué ce genre de culpabilisation. Et c'est que, d'un côté, je suis perplexe, ça doit être une question de la manière dont c'est fait, mais le fait est que si un médecin est mauvais, ou même une infirmière, pour de vrai, le risque est réel. Enfin, je veux dire, c'est pas seulement pour les faire chier. Pour de vrai, c'est un risque. Je te dis, j'ai une copine infirmière qui évoque cette angoisse qui ne lui vient pas de quelqu'un qui lui a dit ça, mais du fait que réellement, elle a conscience de la responsabilité réelle que tu as quand t'es médecin. Mmh. On connaît tous, d'ailleurs, je suppose, en tout cas, moi, j'en ai connu beaucoup, des gens des patients qui ont eu un mauvais diagnostic, par exemple, pour ce qui est des médecins, ou même des gens qui ont vécu une erreur d'une infirmière, et que c'est que les conséquences, soit ont failli être fatales, soit dans certains cas, l'ont même été. Donc, c'est réel. Donc, je me demande comment, Martin Winkler fait la différence entre le fait de dire ça d'une manière qui est maltraitante pour le futur soignant, ou comment est-ce que on doit quand même évoquer ce risque réel sans pour autant faire que la personne soit littéralement tétanisée de d'angoisse, quoi, sans que ça soit une maltraitance pour l'élève de lui évoquer ce risque réel. Donc si tu veux, c'est, je trouve qu'il évoque pas suffisamment. Par exemple, s'il donnait des exemples, peut-être que ce serait plus simple. Mais en effet, dire à cause de toi, parce que t'es nul, tes patients vont tous crever, enfin, tu vois, un truc comme ça, où il faut quand même un peu évoquer le fait que t'as quand même, c'est quand même un métier où, je veux dire, je sais pas, tu dis t'es libraire, si tu as oublié d'envoyer un bouquin dans un colis, c'est vrai que t'auras pas comme conséquence la mort possible de ton client, on va dire, tu vois. Tandis que là, indéniablement, si jamais tu fais des bêtises, ça peut avoir vraiment des conséquences fatales. Donc comment est-ce que Martin Winkler fait cette différence? Tu vois ce que je veux dire?
Oui, bah, justement, c'est une différence qui n'en est pas une, puisque en fait, il est entendu que effectivement, les patients peuvent mourir. Enfin, c'est un axiome, on pourrait dire. C'est vraiment simplement là dans ce genre d'apprentissage. C'est une vérité qui est utilisée à des fins de pouvoir, en fait.
Mais comment justement il fait la différence entre quelqu'un qui le dit, qui a ce procès d'intention finalement des professeurs, de comment ils en parlent. Comment est-ce que il fait ce procès d'intention? Quelle est la différence entre, enfin, qu'est-ce qui lui fait dire que quand, par exemple, un professeur, enfin, un enseignant pour les futurs soignants, qu'il évoque un risque réel et que c'est pour les contrôler, les dominer, les humilier, etc. Comment est-ce que qu'est-ce qui lui fait faire ce procès d'intention? Tu vois, je suis pas totalement convaincu, quoi. Enfin,
ouais, c'est... Ouais, très bien. Bah, peut-être qu'il donnera des exemples.
Oui, voilà, c'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère. Voilà.
La fonction apostolique. Se trouver enfermé dans ce réseau d'injonctions conduit inévitablement à se sentir menacé en permanence par les patients difficiles, entre guillemets, par les demandes imprévues et surprenantes, par tout ce qui n'entre pas dans les cases diagnostiques. En 2005 et en 2006, dans une faculté de médecine parisienne, Paris 5 Descartes, j'ai été brièvement généraliste enseignant de base. Comme tous mes collègues généralistes qui venaient donner des cours entre deux séries de consultations à leur cabinet, je n'avais pas de statut officiel. La faculté nous rémunérait au lance-pierre et souvent pas du tout, et l'enseignement que nous étions invités à délivrer au compte-gouttes était noyé dans l'océan des cours de spécialité. Un jour, j'ai animé deux sessions d'enseignement. Celle du matin, consacrée à l'annonce des mauvaises nouvelles, rassemblait à une quarantaine d'étudiants de troisième année qui n'avaient pas encore mis le pied à l'hôpital. Lorsque j'évoquais devant eux la manière d'annoncer une maladie grave à un patient ou à un de ses proches, la réaction fut réconfortante. Ils me parlèrent de bienveillance, d'empathie, de soutien moral, de compassion, d'écoute, d'accompagnement. Ils étaient résolus à prendre, le jour venu, le temps qu'il faudrait. Ils se juraient de ne jamais faire subir à leurs patients ce qu'ils avaient vu d'autres médecins faire subir à des amis, à des membres de leur famille, parfois à eux-mêmes. En sortant de cette séance, j'avais le cœur léger et je me réjouissais de voir à quel point la génération montante était différente des praticiens sans cœur que je dénonçais depuis des années. L'après-midi, on m'avait confié une séance intitulée « L'approche clinique », destinée à des étudiants de 3 ou 4 ans, plus âgés que ceux du matin. Dans ce second groupe, tous étaient résidents de médecine générale et certains remplaçaient déjà des praticiens installés. Il y avait là une soixantaine de jeunes gens plutôt tendus et très préoccupés par ce qu'ils avaient dû abandonner pour assister à cette séance obligatoire. Pour introduire le sujet, j'ai commencé en disant « J'imagine que dans cette pièce, nous sommes tous d'accord sur le fait que notre rôle ne consiste pas à dire aux patients comment mener leur vie. » Stupéfait, les trois quarts des personnes présentes ont bondi sur leur siège comme si j'avais éructé une incongruité. Faut pas dire aux patients comment mener leur vie. C'est quoi ces conneries? Alors que je m'efforçais calmement de préciser ma pensée, écouter plutôt qu'accuser, expliquer plutôt que culpabiliser, accompagner plutôt qu'ordonner, rassurer plutôt qu'inquiéter. L'un des étudiants que je voyais bouillir comme de l'eau sur le feu m'a lancé, excédé, et presque mot pour mot, « Mais bordel, quand on a devant nous un type obèse, hyper tendu, qui a un cholestérol et une glycémie au plafond, qui picole comme un trou, qui baise n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, sans protection, et qui nous ment en disant qu'il suit son régime et ses médicaments, il faut bien faire quelque chose, non ?» Par ces mots, ce jeune praticien, qui 3 ans plus tôt ressemblait probablement comme 2 gouttes d'eau aux étudiants vus le matin même, illustrait de manière assez stupéfiante la transformation qu'on lui avait fait subir pendant ses années à l'hôpital. Son enthousiasme s'était transformé en angoisse, son empathie en soupçon, son désir de bien faire, ou de faire du bien, en comportement phobique.
Je sais pas, peut-être qu'il s'en expliquera après, mais là où je suis pas d'accord avec ce qu'il dit là, c'est que je ne vois pas de raison, enfin, je veux dire, comment dire, on peut très bien se dire qu'on va annoncer gentiment une mauvaise nouvelle, mais dans le premier cas, il n'avait pas évoqué justement du tout le côté est-ce qu'on doit quand même, est-ce que tu peux pas te dire qu'il faut le dire gentiment, tout en te disant que ouais, mais sauf exception, sauf que bon, tu vas l'annoncer quand même, bon, eh bien vous avez un cancer généralisé, je vous écoute et tout, et puis tout en pensant que si le mec est en effet boit comme un trou et obèse et tout, bah, que tu puisses avoir les deux points de vue à la fois. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui pensent que, enfin, c'est des généralités comme ça. Enfin, je sais pas si je m'explique bien, mais qui peuvent se dire, il faut dire gentiment aux gens quand on sait qu'ils ont une maladie grave, et que en même temps, il y a une exception, c'est quand on pense que c'est de leur faute. Tu vois, il a pas posé la question à ceux du matin. S'il leur avait posé la question, peut-être qu'ils auraient ouais, non, mais sauf dans ce cas-là, bien sûr, ça n'empêchera pas que on les écoutera, mais qu'on leur dira quand même qu'il faut qu'ils changent de mode de vie et que c'est un petit peu de leur faute quand même, tout en prenant quand même des gants pour leur annoncer la nouvelle et même qu'ils se disent ouais, sauf dans ce cas-là, par exemple. Je veux dire, il n'a pas été à fond le matin en demandant aux gens et si vous pensez que les gens sont coupables de leur situation, peut-être qu'ils auraient répondu ah ouais, non, mais bien entendu il faut les secouer un petit peu, enfin même beaucoup, enfin tu vas leur dire que bon, maintenant fini de rigoler, vous arrêtez un peu les conneries, etc. Enfin, ça pourrait être les mêmes en réalité. C'est peut-être pas qu'ils ont été transformés, mais que en fait ils ont toujours été comme ça. Il leur a pas demandé à ceux du matin. Et au fait, et au cas où c'est quelqu'un qui est un peu responsable de sa situation, vous réagissez comment? Peut-être qu'ils auraient bondi aussi sur leur chaise. Ah ouais, non, mais dans ce cas-là, c'est différent. Tu vois, ce que je veux dire? Non, mais je sais que tu me trouves un peu toujours à enculer un peu les mouches, mais je non, mais c'est parce que vraiment je me pose la question.
Non, c'est oui, non, on entre un peu dans les détails, dans les nuances. Oui, c'est
pas une nuance, parce que vraiment je pense que c'est quand même, je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui assument carrément qu'ils n'ont, attends, bien entendu, je vais annoncer aux gens, je vais leur dire tu vas crever, etc. Ouais. Comme ça. Je crois que même quand ils sont du genre à le faire, ils vont pas l'assumer forcément, même de même à eux-mêmes, tu vois. Mais qu'en même temps, si jamais tu leur poses la question, ils diraient non, mais évidemment que si jamais la personne qui est malade, c'est sa faute, je vais pas lui envoyer dire. Tu vois ce que je veux dire? Ça pouvait être vraiment les mêmes. Ils ont pu ne pas évoluer du tout. C'est pas un détail, je trouve. Ils peuvent très bien être sur les deux points de vue à la fois. Faut prendre des gants pour annoncer qu'il va mourir, mais en même temps, il faut pas prendre de gants pour lui dire c'est un peu de ta faute, quoi. C'est beaucoup de ta faute. Ouais. Et puis maintenant, t'arrêtes ça et...
Est-ce que c'est le rôle du médecin de faire ça?
Ah bah, alors là, je suis complètement d'accord. Évidemment. Mais ce que je réagissais seulement aux commentaires de Martin Winkler, ouais, qui pensait que ceux du matin auraient pas été du genre à dire si c'est sa faute, tu parles que je vais pas le ménager.
Oui, tout à fait. Oui,
tu vois, il aurait très bien pu dire, je ménage les gens au moment de le dire, mais sauf au cas où c'est quand même leur faute, auquel cas il faut leur secouer la pulpe du fond et puis pas gentiment, tu vois.
Oui, il y a pas besoin de plusieurs années pour
non, voilà, c'est ce que je veux dire, ça pouvait être les mêmes en réalité. Ouais. Il pouvait, parce que je crois pas en plus, surtout quand tu dis ça comme ça, dire froidement, ouais, non, mais quelqu'un qui justement n'y est pour rien, je vais lui annoncer violemment qu'il va crever. Ouais, évidemment, mais que c'est dur à assumer. En revanche, beaucoup de gens, je parle pas seulement des médecins, hein, beaucoup de gens pensent que quand tu mènes une vie de patachon, bah, comme on fait son lit, on se couche et puis t'as qu'à arrêter et puis c'est ta faute. Tu vois ce que je veux dire? Et ça peut être les mêmes. Ça peut être les mêmes. Et peut-être que s'il leur avait posé la question comme ça, ceux du matin, et si vous pensez que c'est la faute du patient, est-ce que vous lui dites? Eh ben, peut-être qu'ils auraient répondu, ah bah ouais, attends, il a qu'à arrêter aussi. Bon, enfin voilà.
Donc on est d'accord quand même que sur le rôle du médecin ne consiste pas à dire aux patients comment
mener. Ah oui, absolument. Non, je croyais pas que j'avais pu dire un truc qui pouvait laisser penser ça. Oui, bien sûr, bien sûr.
Alors, comme beaucoup, ce jeune praticien avait fait sienne l'idée que tout patient qui refusait son aide se mettait dans un grave danger et surtout le mettait sciemment en échec. Les patients qui n'obéissaient pas à ses prescriptions allaient mourir, et bien entendu, ce serait de sa faute. Il devait tout faire pour éviter ça, coûte que coûte. Voilà, on est un peu dans le... C'est aussi cette angoisse du praticien d'être dans un échec et d'arriver à la mort du patient.
Alors là, c'est l'interprétation de Martin Winkler, mais moi, comme tu sais, j'ai comme référence Patrick Declercq, l'auteur des Naufragés, donc qui était médecin pour des clochards, pas des SDF, mais des clochards, des gens en très grande désocialisation et souvent dans un état pas possible, quoi. Et donc, en fait, le truc, c'est que dans ce livre, qui est vraiment génial, hein, on en avait parlé une fois, mais franchement, je le conseille, moi, je suis pas sortie de ce... Enfin, il n'y a pas beaucoup de livres dont je suis pas sortie comme je suis rentrée, mais celui-là, c'est vraiment le cas. Et donc, le truc qui est intéressant dans son interprétation à lui, c'est que de toute façon, face au clochard, il y a un refus général de l'altérité. C'est-à-dire que les médecins, donc dans son cas, c'est des médecins effectivement pas forcément spécialisés d'ailleurs, mais enfin en tout cas, quand ils sont face à un clochard, ils se demandent ce que eux voudraient. Par exemple, t'as pas de logement, t'en voudrais un, hein, t'as pas de travail, t'en voudrais un, hein, tu vois. Et t'as carrément la gangrène, ou tu peux être dans un état physique incroyable. Tu bois, tu voudrais arrêter de boire, enfin tu vois, des choses comme ça. Et c'est complètement incompréhensible, si tu veux, pour la plupart des gens. Et donc il disait, il faut avoir l'état d'esprit où tu t'adaptes en fait à ce qu'est la personne, et que tu n'essaies pas de plaquer sur le patient ce que tu es toi, ce que tu voudrais toi. Et par exemple, il disait, chaque fois qu'on essaye de chaque mais en plus c'est 100%, hein, 100% d'échec chaque fois qu'on a essayé d'intégrer des clochards, donc des gens qui sont absolument pas dans un état d'esprit de vouloir s'intégrer, absolument pas, mais ils ne peuvent pas l'accepter, si tu veux. Donc c'est moins enfin, ce qu'il dit lui, c'est que c'est moins de la culpabilité ou je sais pas quoi que le fait qu'ils peuvent pas comprendre. Et quand on essaye de faire ça, ben dans pas la plupart des cas, mais 100% des cas, les soit heureusement ils arrêtent d'essayer de s'intégrer, soit ils meurent dans les mois qui suivent la tentative de les intégrer, de leur trouver un logement, un boulot, et puis on les met dans des centres où on essaye de les désintoxiquer et où on dit la condition c'est qu'ils arrêtent de boire, et ce n'est juste pas possible. Mais donc lui, ce qu'il dit, c'est que c'est pas tant la culpabilité de pas les soigner que l'incompréhension totale. Donc, face à quelqu'un, enfin, le cas qui cite, ouais, si le mec il est obèse, il boit comme un trou et tout, et que toi tu es pas, tu sais pas ce qu'est l'addiction, par exemple. Tu sais pas ce qu'est l'addiction, tu ne sais pas ce qu'est le fait de d'être désespéré, pas forcément d'ailleurs par une névrose ou quoi, mais parce qu'après tout, rien que la vie est quelque chose qui est pas toujours évident à assumer, le fait de vivre, quoi. Et donc, tu comprends pas et tu plaques ce que tu voudrais. Moi, si j'avais une addiction, je voudrais que ça s'arrête, je voudrais qu'on me soigne. Si je suis obèse, je veux maigrir. Si j'ai, enfin, tu vois, et moi, j'interprète pas forcément de la même manière que lui la réaction du médecin, par exemple, dont il parle, qui saute sur sa chaise. Je pense que vraiment, je partagerais plutôt le point de vue de Patrick Declercq, qui lui a plutôt constaté de l'incompréhension, quoi. Alors, même le désir de contrôle provient souvent du fait que t'as aucune espèce de sens de l'altérité. C'est-à-dire que tu peux pas te dire que les gens puissent vouloir autre chose que toi, quoi. Tu vois, on va parler du travail, mais je t'assure que sur cette question-là, c'est pas de la tarte. Arriver à faire comprendre que non, tu veux pas travailler, les gens qui ont vraiment chevillé au corps la valeur travail, ils voudraient te soigner de cette probablement t'es névrosé. Tu vois, je veux dire, donc cette difficulté à comprendre l'altérité, moi c'est comme ça que j'interpréterais les difficultés qu'on a face à des gens qui comme ça, des médecins par exemple, qui te maltraitent parce que tu t'arrives pas à leur faire comprendre que toi t'es pas comme eux, quoi, tout simplement.
Mais c'est bien, c'est un peu ça qui est vraiment qui est exprimé aussi dans ce livre, parce que par exemple, je dis la suite. Il ne voyait pas que ce fantasme assassin, entre parenthèses, si je n'arrive pas à lui faire entendre raison, mon patient mourra, était le négatif du fantasme tout aussi mensonger selon lequel le médecin sauve des vies. Voilà, donc ça rejoint un petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on ne sauve pas des vies à l'insu des personnes.
Ils peuvent se faire. Soyez honnête, moi je veux dire, ça m'est arrivé d'avoir la vie sauvée par un médecin, mais pas au sens de mon existence. C'est-à-dire que, tu sais, bon, Proudhon, qui disait pas que des saloperies et des conneries, a dit qu'il reconnaissait l'autorité de son cordonnier qu'en matière de cordonnerie. Donc si tu veux, si sa compétence, c'est de soigner ton corps, pour ta vie, voilà, qu'il aille se faire voir, quoi, tu vois, c'est tout.
Je continue. Il ne voyait pas le patient réel ou caricatural qu'il venait d'invoquer comme un individu, mais comme une collection de symptômes et de syndromes, un chapelet de facteurs de risque, pour tout dire, comme une bombe ambulante. Il ne le percevait pas comme une personne autonome, mais comme une brebis égarée à remettre sur le droit chemin, fût-ce malgré elle. À défaut de sauver la vie de leur patient, ce jeune médecin et ses camarades ne comprenaient pas qu'il se donnait pour vocation de sauver des âmes. Quand on se remémore l'histoire de la médecine et ses liens étroits avec l'Église catholique, l'idée n'est pas si extravagante. Au cours de leur formation et jusqu'au début de leur pratique professionnelle, bon nombre de médecins se sentent progressivement investis par ce que le psychiatre Michael Balin nommait leur fonction apostolique. Note Balin, M, Le médecin, son malade et la maladie, édition Payot, 1996. Donc la fonction apostolique, c'est-à-dire qu'ils éprouvent le besoin de convaincre leurs patients que ce qu'ils disent, proposent, suggèrent ou ordonnent est ce qu'il y a de mieux pour eux et qu'ils doivent absolument s'y plier. Ce faisant, ils ne font pas tant preuve de professionnalisme que de paternalisme, puisqu'ils sous-entendent par là que le patient ne sait pas ce qui est bon pour lui. Et s'il le sait, qu'il serait mal, moralement parlant, de ne pas suivre leurs recommandations. Ce faisant, les jeunes médecins sont persuadés que leur comportement est bienveillant et altruiste et que forcer les patients à accepter leurs prescriptions est une attitude justifiée puisque c'est pour leur bien. Comment ne pas voir dans cette conviction obsessionnelle la foi du missionnaire qui cherche son propre salut dans l'évangélisation des innocents ?
Là aussi, C'est pareil, hein, c'est vraiment pas pour critiquer systématiquement, mais c'est sur l'interprétation des intentions. Moi, je pense que d'une façon, comme je suis anti-autoritaire en général, je pense que le pouvoir est maudit et que indéniablement, les médecins ont un pouvoir. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui, en effet, a entre ses mains ta vie ou ta mort, des fois, enfin, pour de vrai, hein, je veux dire, eh bien, qu'il en profite lâchement, c'est logique, mais moi, je trouve qu'on est tout le temps confronté à des gens qui veulent ton bien et qui essayent de te faire bouffer leur conception des choses. Je te donne un exemple comme ça quand t'as un enfant. Hein. Par exemple, tu pourrais dire, tiens, ça y est, t'es devenu adulte, on va te foutre un peu la paix, mais pas du tout. Tu te retrouves cerné, mais pas seulement. Alors moi, déjà, ça a commencé à l'hôpital avec les aides, enfin pas les aides-soignantes, enfin comment, les puéricultrices, quoi, tu vois. Mais les puéricultrices, mais aussi tous les gens autour de moi, la famille, des gens que je connaissais pas dans la rue, faites pas ci, faites comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Je veux dire, c'est effrayant. J'ai très rarement rencontré des gens qui essayaient pas de te faire bouffer par tous les moyens leur principe à eux d'éducation, tu vois, par exemple. Et franchement, à partir du moment où en plus, indéniablement, t'as un pouvoir, puisque les médecins ont un pouvoir, eh ben, bien entendu, c'est ce qu'ils vont utiliser pour te... C'est ce qu'ils vont utiliser pour essayer de te manipuler pour que tu obéisses à leur conviction à eux. Donc, si tu veux, je crois pas qu'ils aient plus que d'autres une mission comme ça, qu'ils soient plus missionnaires que d'autres. J'ai bien peur que, malheureusement, on ait un peu de mal à rencontrer des gens qui respecte que tu sois différent. Voilà. On parlait de gens un peu foutraques, je te raconte même pas, on voit dans ces BD, Matt Conture, Quepon, un peu spécial, on va dire, le nombre de fois où il rapportait, ou même j'ai vu qu'on allait jusqu'à lui suggérer de changer de coiffure, par exemple, tu vois. Rien que ça. Mais c'était pas seulement des médecins, c'était des gens comme ça, fais ci, fais ça, comme il est malade, ben, c'est parce que t'as fait ci, c'est parce que t'as fait ça. Me dis pas que t'as jamais vu ça aussi. Que ouais, forcément, c'est parce que, enfin, je sais pas, ta manière de vivre en général, c'est de ta faute. Enfin, tu vois, je veux dire, je pense vraiment que c'est pas forcément qu'ils ont des particularités psychologiques, mais c'est l'occasion qui fait le larron. Indéniablement, ils ont beaucoup l'occasion de faire chier les gens. Enfin, tu vois, je veux dire, beaucoup. Et en plus, ils ont un statut qui leur permet de les prendre encore plus de haut que la personne que tu croises dans la rue et qui te dit faut pas donner du chocolat à votre enfant. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est ça aussi, c'est le statut. Ils ont indéniablement, hein, et ils en profitent, alors que, ben oui, ils ont des compétences, je vais pas te dire le contraire, mais enfin, c'est pas une raison, quoi. Reste-en à me soigner quand je te le demande, d'ailleurs, et pas quand je te le demande pas. Dans les naufragés de Patrick Declercq, il explique que des fois, il voit arriver des gens, des clochards, dans un état, mais des trucs qui doivent être douloureux. Enfin, il y a des photos dans le bouquin où tu te dis, mince, dans quel état ils ont réussi à se mettre. Ils ne veulent pas qu'on les soigne, veulent pas, c'est tout. Donc, tu te dis, oui, c'est bizarre, mais c'est lui qui décide. Voilà.
Oui, et puis cette expression, c'est pour ton bien, ça fait penser aussi au traitement des personnes entre guillemets suicidaires, comment elles sont traitées en psychiatrie.
C'est vrai. Pas moi qui dirais le contraire, j'ai vécu ça, ouais. Ouais. Bah oui, ils te disent par exemple, ça va te faire du bien de pas voir tes proches pendant 2 semaines. C'est ce qui m'est arrivé. Mais moi, je veux les voir. Non, 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 on sait ce qui est pour ton bien. D'accord.
Je poursuis. Par malheur, cet apostolat rend aveugle à la réalité. En prenant telle ou telle attitude, les jeunes médecins agissent souvent en complices, serviles ou ignorants, des chimères et des manœuvres industrielles. Les pratiques dites de « disease mongering », des informations visant à créer de toutes pièces des maladies, telles que le décrit York Black dans son ouvrage « Les inventeurs de maladies
», qu'on avait d'ailleurs lu en entier aussi à l'antenne.
Oui. Donc je rappelle le titre « Les inventeurs de maladies, manœuvres et manipulations de l'industrie pharmaceutique ». Ont en effet une puissante influence sur le corps médical, tout particulièrement en France et dans l'enseignement. Le rapport sur les conflits d'intérêts à l'APHP mentionné plus haut en témoigne abondamment. Les lacunes de la formation critique et le sentiment de culpabilité, soigneusement martelés par leur maître, à l'idée de condamner à mort les patients dont ils n'auront pas, par exemple, traité le cholestérol, exposent ainsi irrémédiablement les étudiants à prescrire des médicaments présentés comme miraculeux. L'endoctrinement médical contribue à faire de beaucoup d'étudiants en médecine des professionnels apeurés et des prescripteurs dociles. Le patient fragmenté. Il est par ailleurs assez vain d'enseigner aux étudiants du cycle préclinique comment annoncer une maladie grave, car l'enseignement des années suivantes fragmente le patient en organes séparés et en maladies désincarnées, ce qui leur fait perdre de vue l'essentiel. Ils soignent une personne, pas un niveau de cholestérol ou l'image observée sur un écran d'échographe. Symptômes et maladies n'ont de sens que si le patient se les réapproprie. Quant au traitement, ils sont autant de choix que le patient peut récuser ou accepter, mais ils ne constituent pas l'essentiel des soins. Annoncer une maladie grave, c'est descendre dans la fosse pour montrer au patient à quel point elle est profonde. C'est une épreuve morale pour l'un comme pour l'autre. Réconforter toujours. On enseigne aux étudiants en médecine français à décrire des protocoles de traitement. On ne leur enseigne pas à prendre la main du patient et à attendre qu'il reprenne ses esprits. Au fil des études, le passage dans des services « de pointe » entre guillemets, fragmente la perception que les étudiants ont des patients en leur présentant chaque spécialité comme un domaine de développement technologique, comme une carrière à suivre et non comme un groupe de personnes à soigner. S'il est admissible qu'un étudiant préfère la chirurgie parce qu'il est habile de ses mains, il n'est pas acceptable que les enseignants survalorisent les activités technologiques aux dépens des pratiques fondées sur la rencontre et l'échange. Or, c'est exactement ce qui se passe. La structure de l'enseignement médical pousse les étudiants à choisir l'exercice qui, émotionnellement, est le moins éprouvant, celui qui consomme le moins d'énergie, moralement parlant. La médecine générale et la psychiatrie sont des pratiques exigeantes parce qu'elles doivent appréhender le patient dans son ensemble.
Bof. C'est ce que je pense de la psychiatrie. Hein. Je pense pas que ça puisse être que la bonne psychiatrie est une psychiatrie qui n'existe pas. Mais par ailleurs, je m'interroge. Tu te rappelles peut-être que lorsqu'on a fait le débat qu'on avait fait avec toi sur autour de la présentation de l'émission L'Entonnoir, un psy avait prétendu qu'il y avait un moyen de faire que les gens et de l'empathie, c'était une espèce de formulaire, ça avait l'air, enfin bon. Et moi, j'avais exprimé à ce moment-là que je pensais que l'empathie, ça s'apprenait pas. Et là, je pense que si tu veux, quand tu vois, enfin, quand on a eu affaire à des gens qui en avaient pas de l'empathie, quand on a affaire, au contraire d'ailleurs, à des gens qui en ont, bah, j'ai parlé de mon fils Sébastien, qui même petit avait déjà tellement d'empathie que quand il voyait des sans-papiers, il était complètement bouleversé. Il voulait pas, comme il voyait qu'il dormait par terre, il voulait pas dormir. Il y avait pas de raison que moi, etc. Enfin, puis qui est resté comme ça, quoi. Il a pas lu une ligne de psy, il a pas vu le formulaire du psychiatre qu'on a vu, ou psychanalyste, j'en sais rien. Enfin bref, en tout cas, est-ce que ça s'apprend? Honnêtement, quand t'as eu affaire à des gens qu'on n'avait pas, qui sont capables de dire, le genre de trucs qu'ils sont capables de te dire, par exemple, même le mépris de classe que j'ai subi. Quand j'avais le ticket modérateur et que j'étais à l'hôpital, ce mépris de classe que tu ressens bien, quoi, tu vois. Eh bien, je ne crois pas, honnêtement, qu'il existe aucun enseignant, aussi doué soit-il, qui puisse apprendre à quelqu'un qui a pas d'empathie à en avoir. Donc, si tu veux, ce qui est un peu désespéré dans cette situation, c'est que, en effet, je ne crois pas qu'il y ait de remède pour le genre de gens. Par exemple, pour le genre de gens qui pensent qu'il faut qu'ils interviennent sur ta manière de vivre. Je veux dire, moi, je ne sais pas, les gens que je connais, sans parler de médecins, et qui veulent contrôler, qui sont effectivement dénués de toute empathie, dénués de tout respect des autres, qui veulent te contrôler, qui sont autoritaires, je ne vois pas de remède. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je pense pas qu'il existe un enseignement ni un formulaire, ni rien du tout, qui puisse. Il faut penser à des gens précis, quoi. Ouais. Et à qui on a eu affaire. Et est-ce qu'on imagine vraiment.
Tu penses pas qu'il y a de méthode thérapeutique qui peut apprendre à.
Non. Non. Et par ailleurs, j'attends encore qu'on me prouve que psychiatre, c'est une compétence. Tu vois, c'est toujours la même confusion. Médecin, oui, mais uniquement sur le corps. Mais indéniablement, quand être infirmière, la copine qui est infirmière, tous les jours, elle apprend des trucs par rapport aux soins. Enfin, comment on fait une piqûre et tout ça. Mmh. C'est pas un truc que tu improvises. Mmh. En revanche, ben, excuse-moi, mais la capacité d'écoute, l'empathie, etc., à la limite, si ce que t'as besoin, c'est quelqu'un à qui parler, bah, j'ai vu plein de psy qui, parce que j'en ai vu à titre personnel ou des fois pour mes enfants, parce que celui qui voulait pas aller à l'école, par exemple, et ben, c'était n'importe quoi. Mais je crois pas, je sentais bien que c'était leur caractère, quoi. Et est-ce qu'on change le caractère des gens avec un enseignement? Franchement, je crois pas, quoi. Je pense que. Ben, pensez à des gens que vous connaissez et qui n'ont pas d'empathie. Imaginez-les ayant du pouvoir. C'est aussi bête que ça. Voilà. Enfin, imaginez-les ayant du pouvoir, comment on peut les empêcher d'en abuser. Voilà.
Donc, il y a quand même au départ un savoir-faire, mais qui pour les uns serait dénué d'empathie et pour les autres avec de l'empathie.
Bah, je dois mal m'expliquer. Je veux dire, quelqu'un qui sait plutôt que. Bah, c'est bien que le médecin ait de l'empathie, mais je dirais pas que c'est superflu, mais que au moins ça soit pas un connard, quoi. Je veux dire, tu peux dire bon ben voilà, enfin je sais pas, t'annonces une maladie, que la personne a une maladie, tu l'annonces pas comme c'est arrivé pour un copain qu'on lui annonce, enfin on annonce à la fois au mari et au fils. Bon alors je vais vous le dire, les carottes sont cuites, comme ça, tu vois. Tu dis est-ce qu'il y a un moyen de faire que ce salopard soit pas un salopard? Franchement, je crois pas. Donc sans avoir à demander à ce qu'ils prennent la main des gens, moi personnellement, quand j'ai été soignée, j'avais pas besoin forcément que l'infirmière ou le médecin me prenne la main. Mais par exemple, quand j'ai vu des infirmières d'ailleurs qui insultaient mon gosse de 5 ans qui venait de se faire opérer des yeux et qui pleurait parce qu'il avait mal, ben je me suis dit, je ne sais pas si quelqu'un comme ça, y a moyen d'en faire un être humain, tu vois. Mais sans demander à ce qu'elle me fasse des câlins, qu'au moins elle me maltraite pas. Mais on connaît tous des gens autoritaires, qu'ils soient médecins ou non, ou qu'ils soient soignants ou non. Et vous avez une idée de comment on les empêche d'être autoritaires? Parce que moi j'en ai pas. Honnêtement, t'essayes d'en appeler à leur humanité et puis tu y arrives pas. Je sais pas. Mais si tu veux, c'est vrai que personnellement, j'irais pas jusqu'à demander voilà des câlins, quoi, tu vois. Juste qu'on me manque pas de respect. C'est tout. Effectivement, que tu te dises c'est la moindre des choses. Enfin, est-ce qu'on a besoin de te l'enseigner que quelqu'un qui a une maladie grave, faut prendre un peu des pincettes. On a besoin de t'enseigner ça. Parce que sinon, t'es tellement con que tu t'en doutes pas tout seul. Je suis verte, quoi. Tu vois, enfin bon, je suis surprise, on va dire. Voilà.
Bon, ben, on va finir le sous-chapitre intitulé Le patient fragmenté. Et puis, voilà. Donc, oui, c'est vrai que la médecine générale et la psychiatrie sont des pratiques exigeantes. Bon, la psychiatrie exigeante, je ne sais pas.
Ouais.
Parce qu'elles doivent appréhender le patient dans son ensemble, milieu socio-économique et familial inclus.
Ouais.
Oui. Ça peut être mal appréhendé aussi. C'est pas...
De toute façon, comme le truc, c'est de pas aller les voir, les psys, et puis que c'est de, je pense que c'est tous des charlatans, donc je n'ai pas d'opinion sur ce qu'il faut faire pour être un charlatan, voilà.
Alors, donc, ça peut être épuisant, c'est aussi très gratifiant d'appréhender le patient dans son ensemble, milieu socio-économique et familial inclus, mais ce n'est pas toujours ce qu'on fait entendre aux étudiants. On leur dit plutôt que les psychiatres sont incapables, ils ne savent rien faire de leurs 10 doigts, que les généralistes sont incompétents, ils n'ont pas assez appris, paresseux, ils n'ont pas fait de spécialité, ou encore illuminés. Ils se tuent au travail et frisent en permanence burn-out et dépression. J'oubliais, ils croulent sous la paperasse. La spécialisation accentue le mode de pensée en case. Elle permet aux spécialistes de se démettre lorsque les souffrances invoquées ne sont pas de son ressort. En pratique, cela autorise un gastro-entérologue à s'en tenir aux symptômes ou à la maladie digestive et pour le reste à renvoyer le patient à son généraliste. Mais elle est présentée comme une discipline de pointe parce que technologique. Une forme supérieure d'accomplissement médical, une expertise. Alors qu'en Angleterre, aux Pays-Bas, au Canada ou aux États-Unis, la médecine générale est considérée comme une spécialité de même niveau que les autres et digne du même respect, l'étudiant français se trouve insensiblement poussé à choisir entre des spécialités bien rémunérées consistant à manier des instruments ultramodernes pour traiter des maladies et le quasi-sacerdoce de médecin généraliste qui consiste à porter à bout de bras tous les emmerdements des patients tout en se battant contre une administration kafkaïenne.
Ouais, bah peut-être ça mériterait des commentaires, ça sera pas aujourd'hui. Peut-être on revient. De toute façon, on reviendra encore sur le bouquin. Il reste encore un chapitre.
Ouais, il en reste même plusieurs. Donc c'est dense, hein.
C'est très stimulant, hein, oui. Vraiment.
Voilà. Donc on peut rappeler peut-être qu'est-ce qui va se passer le dimanche, non, ce monde.
Non, je pense qu'on a dit tout à l'heure.
Ouais. Donc, venez. Et puis, ainsi se termine l'entonnoir. Nous vous disons à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Voilà.
Alors, Radio Libertaire.
Garçon plutôt rêveur, installé près du radiateur. Enfant, il est où ton pays? Maman, tu sais, l'instituteur dit que je suis toujours ailleurs. C'est vrai, il a raison, chérie. Il aimait bien l'odeur d'encens et voulait comme certains enfants du wax tissu multicolore. Les petites filles lui souriant, il répondait timidement: Aminata, elle sait que tu l'adores. Une pile de livres devant lui, des manuels d'anthropologie. C'est dur de se concentrer, garçon. La bibliothèque d'ouvrages, de passages et de paysages, elle est superbe en pantalon. Il a un sujet passionnant, la mode chez les filles de 20 ans, vecteur d'identification. Il est question d'objectivisme pour comprendre le mécanisme. Mais bon sang, vraiment, quel pantalon! L'anthropologue aime les tournures, il étudie dans leur fondement chaque partie charnue, postulats et postérieurs. Analyse les croupes à la loupe, chaque hémisphère est important. Il aiguise ses vues, un vrai travail d'enquêteur, spécialiste de la cambrure. Il entend saisir les démarches de chaque promeneuse en promenant ses yeux. Il apprécie les arguments bien développés, très convaincants, qui rebondissent et tout en cohérence. On reconnaît son aptitude à contourner les platitudes, soigner les formes tout en exigence. Il a gardé de son jeune âge le goût pour les jolies images, tourne les pages et danse l'IDS. À entendre ses profs professer, il est devenu professier. C'est le retour sur la terre du prophète. L'anthropologue aime les tournures, il étudie dans leur fondement chaque partie charnue, postulats et postérieurs, analyse les croupes à la loupe. Chaque hémisphère est important, il aiguise ses vues. Un vrai travail d'enquêteur, spécialiste de la cambrure, il entend saisir les démarches de chaque promeneuse en promenant ses yeux. L'anthropologue aime les tournures, il étudie dans leur fondement chaque partie charnue, postulats et postérieurs, analyse les croupes à la loupe. Chaque hémisphère est important, il aiguise ses vues. Un vrai travail d'enquêteur, spécialiste de la cambrure, il entend saisir les démarches